Un homme inconnu dans l'Ancien Testament. Son histoire nous est rapportée dans quelques versets dans le livre des Rois. Quand on lit le livre des Rois, on commence avec la fin du règne de David et on voit toutes sortes de personnages, que ce soit des personnages qui sont bons ou des personnages qui sont mauvais. David, bien sûr, rappelez-vous, est ce roi qui a été décrit selon le cœur de Dieu. Le roi David a été utilisé pour consolider la nation d'Israël, pour faire en sorte que ce peuple soit uni, soit une seule nation. Le roi David, bien sûr, a été aussi ce chantre de l'Éternel qui a écrit une grande partie des psaumes qui sont encore, on en a lu un ce matin, qui était d'Asaph, qui n'était pas de David, mais les psaumes sont là pour nous aider à louer l'Éternel. Ils révèlent quelque chose de la richesse d'une communion avec l'Éternel, puisque le psalmiste très souvent nous révèle sa connaissance de l'Éternel et nous amène, ce sont des moyens qui nous ramènent un réconfort et un encouragement, même encore aujourd'hui. On rencontre, donc à la fin du règne de David, on va rencontrer Salomon. Salomon qui est connu pour sa sagesse, qui est connu pour ses richesses qui dépassent, enfin qui sont énormes, immenses. Même la reine de Saba, quand elle est venue le voir, est émerveillée devant la splendeur, devant la sagesse de Salomon. C'est lui qui a construit le temple, c'est lui qui a poursuivi l'œuvre de son père. Mais c'est aussi lui qui s'est détourné de l'Éternel et qui a amené le peuple d'Israël, ou tout au moins une partie du peuple, à adorer des idoles et à se détourner de l'Éternel. Et on a, à partir de là, la chute de cette nation, de ce peuple. On a un des serviteurs de Salomon, Jéroboam, qui s'est rebellé contre le fils de Salomon, et qui a amené la division du royaume d'Israël. Et là, nous est décrit que Israël était au nord et Juda était au sud. Et Jéroboam, donc qui était au nord, menait le peuple, mais vraiment contre l'Éternel, se détournant véritablement contre l'Éternel. Par exemple, on peut lire dans 1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 25 et suivant. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Penuel. Jéroboam dit dans son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur et à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres et au lieu qu'il avait élevé. Il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi en son gré. Et il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Et bien sûr, d'autres suivirent, menant le peuple à désobéir à l'Éternel. Et c'est un jour, c'est une période dans l'histoire du peuple où Dieu, dans sa grâce, dans sa fidélité envers les promesses qu'il avait faites, se révèle au travers de ses représentants, c'est-à-dire de ses prophètes. Et nous avons différents prophètes dans la vie de David. Nous avons Nathan qui corrige David lorsqu'il a commis le péché, lorsqu'il a commis l'adultère et le meurtre qui s'en suivirent. Dieu a utilisé son prophète pour ouvrir les yeux du roi David. Il y a Élie, puis Élisée, et des hommes comme cela que l'Éternel suscite pour parler à son peuple qui aujourd'hui se détourne de lui. Et on peut tenter de dire, oui, mais c'est bien beau. Toutes ces personnes sont des personnages, tous ces personnages sont, effectivement, sont des personnages réels, mais c'est des personnages qui sont importants, qui ont eu une grande influence, et on peut effectivement profiter de leur vie, on peut tirer certaines grandes leçons, mais moi, je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme le roi David. Je ne suis pas comme Salomon, je ne suis ni comme Élie ou Élisée. Mais ce que je voudrais que l'on regarde ce matin, c'est que ces leçons que nous pouvons tirer de la vie de ces grands hommes, nous pouvons aussi les voir dans la vie de ces personnages, de ces hommes que l'on ne connaît pas, de ces hommes, et en particulier ce matin, d'un homme inconnu. Avant de le voir et avant de vous dire de quel passage il s'agit, je voudrais simplement encore une fois souligner, pour que l'on comprenne bien l'histoire, que l'on comprenne bien le contexte de cet homme et pourquoi il a des choses à nous apprendre. C'est donc que dans le nord, rappelez-vous, le pays est divisé en deux. Dans le nord, il y a Israël, et dans Israël, donc, il y a à l'époque un des fils d'Achab, Joram, et Joram faisait le mal, faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous le voyons en 2 Rois, chapitre 3. Joram, verset 1 et suivant, Joram, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Et il ne s'en détourna point. Voilà le nord. Voilà Israël. Juda est dans le sud. Dans le sud, nous avons un autre Joram, ou parfois il est nommé comme Jéhoram, qui règne un instant, un moment avec son père, et ensuite, donc, son père décède et il continue de régner seul. 2 Rois 8, verset 16, la 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, ou Jéhoram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est là qu'on a, comme j'ai dit tout à l'heure, la fidélité de Dieu à sa promesse, puisqu'au verset 19 nous lisons « Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner pour toujours une lampe parmi ses fils. » Donc on a au nord Israël qui suit la lignée donc qui se détourne, qui fait mal, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et on a au sud Juda qui suit le même chemin avec certains rois qui de temps en temps ont la crainte de l'Éternel, mais dans l'ensemble se détournent de lui. Élie, à cette époque, dans le passage que nous voulons considérer, est monté au ciel. Il est déjà monté dans ce chariot. Et c'est maintenant Élisée qui est dans le pays. Élisée qui est ce représentant, qui est celui qui parle de la part de l'Éternel. Et donc, nous voulons voir ce matin un homme. Un homme que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas ses origines. On ne sait pas ce qu'il fait. Comme métier, on ne sait rien, si ce n'est qu'il est venu voir Élisée. Et je vous invite à lire dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 38. À partir du verset 38, 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 38 jusqu'à la fin du chapitre 1. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colacanthes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine !» Il en jeta dans le pot et dit « Serre à ces gens et qu'ils le mangent !» Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et il y en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Quand on lit ce passage, bien sûr, on peut voir, entre autres, à la fin de ce passage, on fait souvent référence à cela comme étant la première multiplication des pains. Puisqu'il y a 20 pains, et finalement, il donne à manger à 100 hommes, et il en reste après cela. Mais ce que je voudrais que l'on considère, c'est cet homme, verset 42. Un homme arriva de Baal-Shalisha. C'est tout ce qu'on sait de cet homme. Il nous a rien dit de plus, sinon qu'il vient à Gilgal. Pourquoi Gilgal? Pourquoi est-il allé à Gilgal? Si cet homme, comme nous avons lu dans un des passages, un roi, à cette époque, il y avait beaucoup de lieux de culte. Si cet homme voulait un culte, qui était établi, qui était reconnu de tous, il aurait pu aller à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait le temple. À Jérusalem, il y avait les prêtres, les sacrificateurs. À Jérusalem, il y avait tout ce rituel, ces choses que les enfants d'Israël apprenaient de par les écrits qu'ils avaient, que Dieu avait demandé à Moïse, avait donné les plans à Moïse pour ce tabernacle et que ce temple avait été construit par Salomon. S'il avait voulu une religion établie, il aurait pu aller au temple. Si maintenant, s'il avait voulu avoir une religion, une alternative, il aurait pu aller à Bethel ou à Dan. On a lu, c'est là qu'il y avait les veaux d'or. C'est là que le roi d'Israël avait fait établir des veaux d'or pour dire au peuple, ben, c'est pas la peine d'aller à Jérusalem, venez donc à Bethel ou à Dan, selon où vous habitez, et vous pourrez offrir des sacrifices dans ces lieux-là. Il y avait des images, il y avait quelque chose de grand. Il aurait pu aller, si cela ne lui convenait pas, il aurait pu aller sur ces montagnes où il y avait ces lieux, ces poteaux d'Achéra, comme on les appelle, c'est-à-dire ces lieux de culte où on lit par exemple dans 1 Roi chapitre 14, où de ces hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. 1 Roi 14, verset 23. Sur tout arbre vert, sur toute colline. Il y avait de l'activité religieuse, mais pourquoi Gilgal? Si on regarde dans une concordance, on peut voir que Gilgal, c'est le lieu où le peuple d'Israël, avec Josué, a traversé le Jourdain. On peut voir aussi que c'est le lieu où Samuel avait l'habitude de juger et d'enseigner le peuple. C'est le lieu où Saül a été couronné roi. C'est aussi le lieu où Saül a désobéi et a offert un sacrifice à l'Éternel qui n'était pas acceptable aux yeux de l'Éternel. Donc, je veux dire, sur un plan humain, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien qui n'attire. Il n'y a pas quelque chose comme les veaux d'or, ou comme statues, ou comme le temple. Il n'y a rien qui attire. Alors pourquoi? Pourquoi Gilgal? Nous l'avons lu au verset 38. Gilgal était le lieu où, à ce moment-là, le représentant de Dieu, le prophète de l'Éternel, résidait. Gilgal était le lieu où, dans ce jour, l'Éternel se faisait connaître au travers de son serviteur. Tous ces autres endroits, ces autres lieux, que ce soit Jérusalem, que ce soit Bethel, Dan, que ce soit ces collines, étaient des lieux, effectivement, où il y avait des objets. Il y avait peut-être même des bâtiments qui étaient beaux à voir, des lieux de culte, mais qui n'étaient pas un culte agréable à l'Éternel. C'était une abomination à l'Éternel. Mais à Gilgal, l'Éternel parlait, l'Éternel se faisait connaître au travers de son serviteur, au travers d'Élisée. En d'autres mots, cet homme de Baal Shalisha n'est pas simplement, ne se satisfait pas d'une religion. Oh ben, je vais aller dans un lieu de culte, je vais faire mon activité du dimanche, et puis comme ça c'est fait. Il ne s'est pas satisfait d'aller simplement à Jérusalem, il ne s'est pas satisfait d'aller, s'il n'était pas content de Jérusalem, d'aller dans un lieu où il y avait une forme alternative, où il y avait un veau d'or. On n'est pas allé dans un lieu populaire où, sous tous les arbres, il y avait quelque chose, il y avait un lieu de culte. Il ne s'est pas simplement satisfait d'une religion, il n'a pas simplement suivi ce qui se faisait dans le jour, dans ce jour-là. Il ne s'est pas contenté de suivre la direction que prenait le peuple, la majorité des gens. Non. Il est allé à Gilgal. Lui est concerné davantage par une relation personnelle avec Dieu. Pas simplement quelque chose de refaire son activité religieuse et puis voilà, c'était fait. Non. C'était de rencontrer Dieu au travers de son serviteur, au travers de son prophète, de celui qui parlait avec l'autorité de l'Éternel, qui parlait, qui était son représentant dans ce jour-là. Il n'a pas suivi le courant du jour, la, comment dirais-je, ce que les gens faisaient, qui était la chose à faire. Non, il a recherché l'Éternel. Il est allé à Gilgal. Et tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, tout au long de l'histoire de l'Église, Dieu a suscité des hommes, Dieu a suscité des prophètes, des hommes qui étaient les représentants, qui parlaient au nom de l'Éternel, qui étaient ce contact. Bien sûr, le prophète par excellence est Moïse lui-même, celui à qui l'Éternel a parlé face à face. Et Moïse a dit qu'un jour, Dieu allait susciter un autre prophète, un prophète qui serait plus grand que lui, dans lequel Dieu lui-même lui donnerait les paroles qu'il annoncerait, et il parlera en son nom. C'est ce que nous lisons par exemple en Deutéronome chapitre 18, cette annonce du prophète plus grand que Moïse, 18 verset 15 et suivant. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit, « Eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, c'est-à-dire comme Moïse. » Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ce prophète, bien sûr, ce représentant de Dieu lui-même n'est autre que Jésus-Christ. Celui qui révèle le Père, nous avons vu certains de ses attributs, c'est en lui que réside la plénitude de Dieu, c'est en lui que réside la perfection de Dieu. Il est Dieu, nous venons de le voir encore ce matin, fait homme. Il est venu dans ce monde nous faire connaître le Père. Il est descendu, il a quitté la gloire céleste et s'est fait semblable à nous-mêmes. Nous avons là le meilleur représentant de Dieu. Celui qui nous parle véritablement de Dieu. Et donc la première question ce matin, c'est celle-là. Est-ce que nous l'avons rencontré? Est-ce que comme cet homme qui est arrivé, qui est venu à Gilgal pour rencontrer le représentant de Dieu, est-ce que nous, ce matin, nous avons rencontré celui qui est le meilleur, le représentant parfait de Dieu? Le Fils de Dieu lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ. Est-ce que nous l'avons rencontré dans notre vie personnelle? Est-ce que nous l'avons rencontré à la croix? Ou est-ce que nous suivons simplement qui se fait? Oui, on va faire notre activité religieuse, on va dans un endroit dit d'un endroit de culte, mais bon, il y a quelque chose qui se passe. Comme il y avait beaucoup de choses qui se passaient en ce jour-là. Mais est-ce que nous sommes venus, est-ce que nous avons rencontré celui qui est, nous l'avons vu récemment, le chemin, la vérité et la vie? Est-ce que nous avons rencontré celui qui est, que Dieu a placé comme étant son meilleur, son représentant parfait, celui qui parle avec l'autorité du Père? Est-ce que nous sommes venus le rencontrer comme cet homme est venu à Gilgal? Ça, c'est la première question. Mais la deuxième, c'est que cet homme est venu à Gilgal pour rencontrer l'Éternel au travers donc d'Élisée, son prophète, celui qui parlait de la part de Dieu. Mais il est venu aussi en totale obéissance, en payant un certain prix, le prix de l'obéissance, le prix de l'engagement. Il est venu à Gilgal, et le texte nous dit, en apportant du pain des prémices à l'homme de Dieu. Pour comprendre le point qui est fait ici, il faut encore retourner un peu en arrière. Quand Dieu a choisi un peuple, qu'il a choisi Abraham et qu'au travers de lui, il allait bénir tout un peuple, il a parlé à ce peuple, rappelez-vous, sur la montagne de Sinaï, et il a donné certaines règles à ce peuple, des commandements, parce que justement, ils étaient le peuple qui a été mis à part. Et dans ces commandements, il y a des lois qui concernent les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits. Les premiers fruits de la récolte. Par exemple, en Deutéronome chapitre 26, les premiers versets, il nous est dit ceci: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu posséderas et que tu seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. D'autres passages parallèles dans le livre de Lévitique, par exemple Lévitique 23. Et ce pain que l'homme apporte faisait partie, une partie importante du régime alimentaire de l'époque. C'était quelque chose de fondamental. Et dans la loi, il est demandé, il me semble que c'est Lévitique justement qui parle d'apporter deux pains. Lévitique 23, et voilà, verset 17. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Deux pains. Après les premières récoltes de l'été. Et donc la loi demandait que l'on apporte deux pains comme offrande à l'Éternel. Une manière de reconnaître et d'affirmer notre dépendance de l'Éternel. C'est lui qui donne tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons. Et en retour, nous reconnaissons notre dépendance de lui et nous lui offrons les premiers fruits. Et ces commandements étaient donnés donc pour souligner, pour que les enfants d'Israël soient conscients de cette réalité, de cette dépendance totale de l'Éternel. Mais comme nous l'avons lu dans ce passage en Deutéronome 26, il était dit qu'il devait emmener ces choses au lieu que choisirait l'Éternel pour y résider. Et ce lieu n'était plus Jérusalem, puisque le peuple s'était détourné de Dieu. Ce lieu n'était plus Dan, n'était pas Dan ou Bethel, puisque là c'était l'abomination aux yeux de l'Éternel. C'était l'homme qui se faisait ses propres dieux, ses veaux d'or. Le lieu où l'Éternel résidait était ce lieu où son représentant résidait. Et c'était Gilgal. Élisée était à Gilgal. Et donc cet homme se rend à Gilgal par obéissance à la loi de Dieu. Il va là où le nom de l'Éternel réside. Il va là où l'Éternel se fait connaître, où l'Éternel parle, là où il est, où l'on peut le rencontrer. Il est allé à Gilgal et il est allé pas seulement par une obéissance froide. Non, il y est allé de plein cœur. Comment est-ce qu'on peut le voir ? Il nous est dit qu'il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu 20 pains d'orge. sais pas si vous avez retenu ce que nous avons lu en Lévitique 23, mais Lévitique 23, c'était marqué 2, pas 20. Il arrive avec 10 fois plus. Il ne faisait pas simplement le minimum qui était requis, mais il donnait de tout son cœur. C'était pas un devoir. Il ne venait pas devant l'Éternel parce que c'était un devoir et il y allait comme si on le traînait pour qu'il vienne. Non, il y venait de plein cœur, avec cette adoration du fond du cœur. La loi demande de 2, moi j'en apporte 20. Moi je donne par reconnaissance à l'Éternel. Et je ne vais pas simplement aller à Jérusalem parce que Jérusalem c'était l'église officielle. Non, l'église officielle n'est plus une église. L'Éternel se fait connaître à Gilgal et c'est à Gilgal que je vais aller. Et il y va avec la joie dans le cœur et avec cette reconnaissance devant l'Éternel. Mais il est prêt à payer le prix. Il est prêt à payer le prix. Vous avez vu ce que nous avons lu au verset 38 ? Il y avait une famine. Il y avait dans le pays une famine. Nous ne savons pas la durée de cette famine, nous n'avons pas d'autres renseignements. Mais ça devait être assez long, puisque dans ce passage, nous avons lu que les fils des prophètes sont allés chercher des herbes qu'ils ne connaissaient pas pour en faire de la soupe avec les conséquences que nous avons vues, que nous avons lues. Mais nous avons cet homme qui vient, qui apporte la joie de son cœur, de cette reconnaissance qu'il a dans son cœur. Il donne en abondance. Il donne beaucoup plus que ce qui n'est exigé de par la loi. Il donne même dans une période difficile. Personne ne pouvait l'arrêter dans son adoration, dans cette adoration véritable de Dieu. Il vient devant l'Éternel, là où l'Éternel se fait connaître, et il désire le rencontrer. Et il lui apporte non pas ce que la loi demande, mais beaucoup plus de la générosité qui remplit son cœur. Et la deuxième question donc que nous pouvons nous poser, si nous nous sommes déjà posé la première, c'est: est-ce que nous avons rencontré Dieu là où il se révèle? Et aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ. Et par implication, bien sûr, c'est là où il est annoncé. La deuxième question est: est-ce que nous cherchons, nous désirons adorer l'Éternel de tout notre cœur? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que nous lui donnons en retour ce que nous avons, ce que lui nous donne? Même si la situation est difficile, même si les temps sont difficiles, est-ce que nous lui donnons par reconnaissance pour lui? Est-ce que nous lui donnons ce que nous avons? Ou est-ce que pour nous, c'est simplement un devoir que nous devons accomplir et puis voilà, nous sommes tranquilles pour le restant de la semaine? Quelle est notre approche de l'Éternel? Est-ce que nous l'adorons de tout notre cœur? Est-ce que nous vivons pour lui comme cet homme a vécu? Il n'a pas suivi le courant qui était répandu dans son jour. Il est allé vers l'Éternel et en apportant tout ce qu'il avait, et apportant bien plus que ce que la loi demandait. C'est un problème que l'on peut rencontrer aujourd'hui, des personnes qui se contentent simplement d'une religion, qui vont dans... Ah oui, c'est mon endroit de culte. Mais ce n'est pas là où l'Éternel se révèle. Cet homme était désireux d'adorer, de louer l'Éternel de tout son cœur. Quelle est donc notre attitude? Donc voilà cet homme inconnu, cet homme dont nous ne connaissons pas grand-chose, si ce n'est donc qu'il vient et qu'il vient vers l'homme de Dieu, vers ce prophète, celui qui est le représentant de Dieu dans ces jours. Il ne cherche pas à faire comme les autres, mais il cherche véritablement à rencontrer Dieu. Bien sûr, la conséquence de cela, c'est la bénédiction qu'il apporte pour les fils des prophètes, pour tous ceux qui étaient présents. Au travers de cet homme, Dieu fait une œuvre en multipliant ses pains, et il en reste, et ces hommes peuvent manger, ils ont cette nourriture en abondance. Ces hommes qui n'avaient pas à manger, qui se contentaient d'un potage, et encore d'un potage dont les effets étaient un peu plutôt néfastes au début, qui n'avaient pas mangé de repas vraiment consistants, maintenant ont suffisamment. Au travers de cet homme que Dieu a suscité, et qui par son obéissance, par sa générosité, par cette affection qu'il a pour l'Éternel, cette joie dans le cœur, ce désir de lui plaire, de le louer de tout son cœur, apporte beaucoup plus que ce que la loi n'exige. Et au travers de cette œuvre, Dieu bénit, Dieu apporte une bénédiction à ses enfants. Et donc la question que l'on se pose, que l'on peut se poser ce matin, est celle-ci. Pourquoi ou comment est-ce que les gens autour de nous vont se rappeler de nous? Est-ce que ça va être parce que nous avons découvert quelque chose de remarquable? C'est peut-être un jour, peut-être quelqu'un d'entre nous découvrira quelque chose de remarquable. Mais ce n'est pas souvent que l'on rencontre ce genre de personnes. Est-ce que les gens vont se souvenir de nous parce que nous avons été un grand personnage dans la vie politique? Peut-être. Mais ce souvenir-là ne reste pas très longtemps. Il y a eu des grands personnages dont on a parlé quelques temps après leur vie, ou parfois même pendant leur vie, mais la génération suivante ne s'en rappelle à peine. Et la génération suivante ne s'en rappelle plus du tout. Ici, nous avons un homme. Et son récit, ça fait 20, 25 siècles qu'il est là. Un récit qui est très court, mais son témoignage, il est là. Son témoignage, il est là, écrit, noir sur blanc. Et on s'en rappelle. On s'en rappelle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il n'a rien fait de particulier sur le plan humain. C'est pas celui qui a découvert quelque chose, non? Mais on s'en rappelle parce que il n'a pas fait comme les gens autour de lui, se contentant d'une activité religieuse. On va à Jérusalem, on va à Baal, on va à Bethel, au Vaudor, ou non. Il est allé à Gilgal. Il est allé rencontrer l'homme de Dieu, c'est-à-dire celui qui parlait, qui révélait, qui parlait au nom de Dieu. Celui qui représentait Dieu. Il ne se contentait pas d'une religion comme tous les autres, mais il voulait rencontrer Dieu personnellement. C'était une relation personnelle. Et il est allé avec la... Non pas simplement par une obéissance froide, en disant, bon, ben, la loi demande deux pains, j'y vais avec deux pains. Non, mais c'est avec ce cœur débordant. C'était pour louer véritablement Dieu qui lui donne tout, même dans une famine, même dans des temps difficiles. C'est Dieu, c'est l'Éternel qui donne, et en reconnaissance, il veut louer l'Éternel. Et il le fait non pas dans un lieu qui se dit offrir un culte à l'Éternel, il ne va pas au temple, il ne va pas au veau d'or, il ne va pas sur ces poteaux d'Achéra que l'on avait montés dans, sur toutes les collines, non. Il va là où il sait que l'Éternel parle. Il va à Gilgal. Voilà pourquoi cet homme, on s'en rappelle dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi son témoignage est là. Bien sûr, de par son acte, l'Éternel l'utilise pour apporter une bénédiction pour le peuple. Mais ce que j'ai voulu souligner ce matin, c'est cet homme. Pourquoi est-ce qu'on s'en rappelle? Pourquoi est-ce que, ou de quoi, comment dirais-je, si on se rappelle de lui pour cela, pour son désir de rencontrer l'homme de Dieu, de rencontrer Dieu personnellement, quand les gens penseront à nous, qu'est-ce qu'ils se rappelleront? Nous ne sommes pas des gens connus. Nous ne sommes pas des hommes, des femmes connus du monde. Ce sont le cercle familial, quelques amis qui nous connaissent. Mais est-ce que l'on nous connaîtra pour avoir cette même attitude? Est-ce que l'on nous connaîtra pour avoir cette attitude de chercher la face de l'Éternel, là où il est? Pas de se contenter de suivre le mouvement commun, le mouvement de tout le monde, de la foule, mais de véritablement chercher l'Éternel là où il est, là où il se révèle. Il se révèle en Christ, il parle là où son peuple se réunit au nom de Christ, où Jésus-Christ est enseigné et proclamé, où Christ est au centre du message. Est-ce que notre attitude est comme celle de cet homme? Voilà un témoignage très court de cet homme, un seul verset. Et encore une partie du verset, 42. Pourtant un témoignage qui parle encore aujourd'hui. Un homme inconnu. Inconnu, mais connu de l'Éternel. Parce qu'il est là, sa parole, son témoignage est rapporté dans la parole de Dieu. Comme dit la parole, toute écriture est inspirée, est utile. Son témoignage est là pour nous apprendre, nous reprendre, nous exhorter, nous encourager. Pour nous exhorter à faire comme cet homme, à désirer une chose, comme le dit le psalmiste, demeurer dans la maison de l'Éternel. Être avec l'Éternel. Ne pas se contenter de suivre les autres, de suivre la foule, non. Mais de rechercher l'Éternel là où est l'Éternel. L'Éternel était à cette époque-là, à Gilgal, c'est là que cet homme est allé. Donc la question là, aujourd'hui, c'est la même chose. Où est-ce que l'Éternel parle? Où est-ce qu'il se révèle? Il se révèle dans sa parole, il se révèle en Jésus-Christ. Où est-ce que Christ est annoncé? Est-ce que c'est n'importe où? Non. Il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup d'endroits qui se disent annoncer l'Évangile, mais est-ce qu'il l'annonce véritablement? Non. Où est-ce que Christ est annoncé? C'est là que je vais aller, c'est là que je vais rencontrer, c'est là que je veux adorer l'Éternel. Et c'est là que je vais lui rendre la gloire, lui rendre un culte agréable, c'est là que je veux le servir, c'est là que je veux offrir ma reconnaissance et le reconnaître que ce qu'il me donne, ce que j'ai, c'est ce que lui me donne et qu'il me donne dans toute sa plénitude. Voilà le témoignage de cet homme. La parole de Dieu nous le rappelle pour nous. un homme inconnu, mais qui a encore des choses à nous dire. Que Dieu parle au travers de cette parole et qu'il nous aide à avoir la même attitude que cet homme. Si les gens, si ceux autour de nous devaient se rappeler d'une seule chose de nous, c'est qu'ils puissent nous décrire comme cet homme. Ils ne désiraient pas, ils ne faisaient pas simplement suivre le courant du monde, mais ils recherchaient à rencontrer personnellement l'Éternel. Et ils connaissaient, ils avaient une relation personnelle, ce n'était pas une religion faite d'œuvres, faites de choses extérieures, mais c'était une connaissance personnelle de Dieu en Jésus-Christ. Que cela soit vrai de chacun de nous, que lorsque on nous regarde, on puisse, s'il fallait définir notre vie en une seule chose, s'il fallait définir en une seule phrase, comme cet homme a été défini en un seul verset. Relation personnelle avec Dieu et une reconnaissance, une obéissance, une adoration qui n'est pas simplement un devoir, mais qui est fait avec tout un cœur débordant, parce qu'il donne pas simplement ce que la loi exige, mais il donne bien plus, 10 fois plus. Cet homme a été rappelé pour cela, que on se souvienne de nous. On peut se souvenir de nous pour beaucoup de choses, mais s'il fallait résumer notre vie en une seule phrase, qu'on puisse la résumer aussi comme on a résumé la vie de cet homme en une seule phrase. Que Dieu donc bénisse encore sa parole à nous ce matin. Amen.